Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Voilà, l'on disait en titre de cette seconde partie de l'émission Okapi Service, on va vous parler de comment bien gérer une école. Le professeur Théophile Mupalo vient de nous rejoindre dans ses studios. Professeur, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Plusieurs chefs d'établissement n'arrivent pas à bien gérer leurs écoles, pas de respect d'heure d'arrivée pour les élèves, les sorties, les entrées non contrôlées, des fois même des bagarres entre élèves dans la cour, ce qui peut constituer un frein pour la formation et l'encadrement de ces élèves. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, c'est l'occasion de nous appeler déjà au 081-890-6394. Théophile Mupalo, qui est expert en sciences de l'éducation, est là pour répondre à vos préoccupations. La première question qui nous vient à l'esprit, Théophile Mupalo, c'est est-ce qu'il y a de normes à respecter pour le bon fonctionnement d'une école?
Ah, c'est une question, je ne sais pas que si elle vaut la peine d'être posée parce que la réponse est évidente. La réponse est évidente, pourquoi? Parce que comme toutes les autres entreprises, une école c'est une entreprise également. Et qui dit entreprise sous-entend, dit unité de production. Mais ici la production est particulière, il s'agit de la formation d'être des êtres humains
et qui seront de futurs cadres,
qu'il faut préparer, qu'ils deviennent un jour utiles à eux-mêmes et à la nation, qui sont appelés à gérer. Ainsi donc, je dirais les normes qui régissent le fonctionnement d'une entreprise sont les mêmes que celles qui régissent une école, étant entendu que l'école, à l'instar de ces entreprises-là, est une entreprise, mais une entreprise particulière, comme vous l'avez si bien dit. Voilà, pour répondre de façon vache première question.
Oui.
Ces normes, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure qu'une école, c'est une entreprise, l'entreprise vise la rentabilité, vise l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés. La même chose en ce qui concerne une école. Soyons plus explicites.
Oui.
Lorsque, aujourd'hui, au début de l'année, je suppose, parce que nous sommes à la fin, ils sont en train de passer leurs examens d'État, comme vous le savez. Au début de l'année, lorsque les gestionnaires, je parle de gestionnaires, ce sont les responsables des écoles, au même titre que les entreprises qui ont leur PDG, qui ont leur DG. Lorsque les écoles inscrivent 100 élèves, lorsqu'il y a 100 inscrits, que nous appelons en termes pédagogiques des inputs. Inputs, ce sont les inscrits, les élèves inscrits, inputs. Le souci qu'ont ces responsables gestionnaires sur les 100 inscrits, leur souci c'est à la fin de l'année, à la fin de l'année donc, ça peut être une certaine échéance, mais je prends la plus longue. À la fin de l'année, il faudra qu'il y ait au moins 80%, si pas 100% de réussite. J'ai dit que, comme toute entreprise, l'école vise l'atteinte des réussites. Ça, c'est une norme. Il faudra qu'il y ait beaucoup de réussites par rapport aux inscrits. Ces réussites-là, les sorties, les entrées, les inputs, par rapport aux sorties, les outputs doivent plus ou moins s'équivaloir ou dépasser la moyenne. Donc sur les 100, il faudra au moins 80, si pas plus de la moitié. Et d'ailleurs, vous connaissez
c'est
la chance.
C'est-à-dire avoir un maximum de rendement,
ouais. Rentabilité, c'est ça. Alors pour atteindre cette rentabilité-là, il faut respecter des normes. Parmi les normes, il y a la gestion. Vous avez bien posé la question, il faut bien gérer l'école. Et lorsque nous parlons de la gestion des écoles, ici nous voyons le gestionnaire avant tout. Et le gestionnaire, c'est le numéro un de l'école, qui se trouve être le chef d'établissement scolaire, ou qu'on appelle, ça dépend du niveau, préfet, directeur, pas proviseur, celui-là c'est son adjoint, n'est-ce pas? Donc le numéro un de l'école, celui qui s'occupe de la gestion courante de l'école.
Qu'est-ce qu'il
Alors,
doit faire?
Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, juste à cette question je voulais répondre. il faut qu'ils respectent les normes de gestion, des gestionnaires, des vrais gestionnaires. Au niveau de l'école, parce que j'ai dit que l'école, c'est une entreprise particulière qui forme les êtres humains, etc., il y a plusieurs normes en ce qui concerne la gestion. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par gestion? J'aimerais commencer par ça. La gestion, en fait, c'est quoi? Il y a beaucoup de spécialistes qui définissent le terme gestion sous plusieurs connotations. Administrer une école, c'est gérer une école. Diriger une école. Donner une impulsion à une école. Donc, c'est ça. Donc, administrer une école, gérer une école. Voilà. Alors, comment faut-il gérer? Pourquoi d'abord? Pourquoi gérer? C'est pour, je l'ai dit, la première norme, c'est pour permettre à cette entité qui produit les élèves, les inputs, les outputs, puisse atteindre un niveau élevé, produire le plus grand nombre de jeunes diplômés possible. Et pour ça, il faut qu'il y ait des normes de gestion. Des normes de gestion, quelles sont ces normes? Quels sont ces principes? La gestion, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est la gestion a plusieurs, c'est une gestion, c'est une, disons, composante multidimensionnelle qui a beaucoup d'aspects en son sein. Il faut que le gestionnaire, qui est le leader numéro un de l'école, puisse, dans un premier temps, planifier ses activités. Ça, c'est la norme la plus... Il faut planifier. Je ne dis pas que c'est la norme la plus importante, parce que toutes les normes se prévalent. Toutes les composantes en matière de gestion se prévalent.
Donc,
on ne peut pas négliger. Voilà. Il faut commencer par planifier les activités. Vous l'avez bien dit ici. Lorsque le chef d'établissement arrive le matin à l'école, il doit faire d'abord un effort. Prenons la norme standard, l'école peut-être commence à 7h30. Et il faudra que à 7h20, que le préfet soit déjà à l'école. Pourquoi il doit être avant les autres? Parce que la norme pour les autres, c'est 7h30. Lui doit être au moins 15 minutes, 20 minutes avant. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à planifier certaines activités journalières. Il doit vérifier si l'école est propre. Si effectivement la cour est propre, l'école se présente dans une situation de pouvoir recevoir ses visiteurs, j'appelle ici visiteurs dans le sens large, parce qu'on parle de visiteurs souvent quand il s'agit de personnalités extérieures, je parle des visiteurs dans le sens général en commençant par les élèves.
Les élèves.
Il faut qu'il vérifie ça, qu'il vérifie les latrines, c'est son propre, qu'il vérifie si les sentinelles sont là, parce qu'il y a des écoles qui ont des sentinelles. Est-ce que les salles sont à mesure de recevoir les... On remplit certaines normes de propreté. Est-ce que le robinet fonctionne? Est-ce que ça, ce sont les activités... journalières. Pourquoi tout ça? C'est pour atteindre, je vous ai dit, les objectifs, pour que les gens qui arrivent ne puissent pas tomber malades. Les gens qui arrivent ne puissent pas connaître des paramètres qui puissent perturber leur présence à l'école. Ça, c'est la planification en ce qui concerne les activités journalières. Il y a des activités hebdomadaires qu'il doit aussi qu'il est appelé à planifier.
C'est-à-dire chaque semaine.
Chaque semaine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Une fois... Il constate que les premières activités ont été remplies. Maintenant, il doit passer aux activités suivantes. Il doit recevoir les visiteurs. Il doit visiter les classes. Il doit se rendre compte si les enseignants sont là. Vérifier la présence de ces enseignants dans les classes. Vérifier si ces enseignants ont le document requis. Les documents requis ici, entre autres, le journal des classes de maîtres. Est-ce que ces maîtres ont eu l'occasion de préparer convenablement leurs leçons? Ils doivent vérifier ça à travers la leçon donnée par les enseignants, parce qu'il est appelé à assister, ne fût-ce que pendant quelques minutes, à l'enseignement du professeur dans la salle. Ils doivent vérifier s'il y a des élèves aussi, au niveau des élèves, si les élèves détiennent les documents requis, à savoir leur journal de classe, les cahiers de communication, ainsi de suite. Au niveau des enseignants, le cahier des notations, les cahiers des examens, des interrogations. Ça, ce sont des activités hebdomadaires. Il y a aussi des activités trimestrielles qu'il est appelé à planifier. Nous sommes au niveau de la planification. Qu'est-ce qu'il doit planifier au niveau du mois? Le salaire. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vérifier par rapport à la présence de ces enseignants, quels sont ceux qui étaient réguliers, quels sont ceux qui ont été absents, pour quelles raisons, maladie, mort, décès ou quoi, tout ça, pour permettre au comptable de pouvoir, au percepteur, au comptable, ou au secrétaire, s'il en a un, j'espère que c'est le cas pour nos écoles, pour pouvoir préparer, n'est-ce pas, la fiche de paie des enseignants.
Et des réunions régulières avec les personnels enseignants, c'est très important.
Absolument, absolument. Je suis au niveau des activités mensuelles.
Oui.
Mensuel, je dis bien,
oui.
Vérifier aussi, organiser des réunions, absolument. Et il y a toute une série de réunions qu'il est appelé à planifier. Il y a des réunions avec les enseignants, il y a les réunions avec les parents. Vous savez, une main ne peut pas laver la figure. Il faut contribuer, collaborer avec les autres partenaires qui sont des partenaires éducatifs. Au premier chef, il y a les parents à travers leur comité, recevoir les représentants des parents, organiser des rencontres avec eux, leur définir les points saillants pour le bon fonctionnement, discuter éventuellement, si on est au début de l'année ou à la fin de l'année,
oui.
Discuter avec eux par rapport au taux déterminé minimal, déterminé par les instances supérieures de l'école, parce qu'il y a la hiérarchie au niveau de l'école.
Votre défi, mon père, là, on revient à vous, parce qu'il y a déjà un auditeur en ligne, il y a Ogi Bindelo, qui nous appelle de Kikwit, dans la province du Bandundu. Ogi, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel, bonjour à notre invité.
On vous écoute, Ogi, allez-y.
Oui, bon, ce n'est pas Ogi, mais c'est plutôt Achille Boba.
Achille, bon, d'accord, c'est bon, allez-y Achille, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Les écoles aujourd'hui sont devenues comme une foi de ceux qui viennent de terminer les études supérieures, monsieur Marcel. Je demande à notre invité, quel conseil peut-il donner au chef d'établissement scolaire qui gère deux écoles à la fois, c'est-à-dire il est une semaine à une école et la semaine prochaine il se rend à une autre école pour s'acquérir des richesses. Et des deux,
oui.
Quelqu'un qui a fait par exemple l'agronomie, est-ce qu'il peut avoir des compétences de gérer par exemple l'option coupe couture? C'est comme une école que je connais dans les territoires de Kungu. Le préfet a fait le domaine, a fait la géographie aux études supérieures. Et maintenant, il gère une école de section commerciale. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, il y a 6 ans d'existence de cette école-là, mais il n'y a que des néants. Et maintenant, je demande à notre invité, parce que je ne pense pas que vous pouvez inviter quelqu'un qui n'est pas mature ou qui n'a pas de connaissances à un sujet quelconque. Alors, les invités, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'écrire aussi sur des années nationales pour voir la réalité des choses qui se passent? Parce qu'autre part, nous pouvons intervenir, vous pensez comme si nous sommes en train de mentir ou de faire entendre notre voix seulement sur les ondes. Mais ce que je dis est vrai. Donc, quelqu'un qui a fait une autre domaine et qui va gérer une autre domaine, les enfants gaspillent de l'air bien de l'argent de leurs parents, mais n'arrivent pas à aboutir à des bons résultats. Merci beaucoup. C'est Achille Boba de Kipi.
Merci, Ogi. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Vous avez des préoccupations, des questions partout où vous êtes à travers le pays, même pour ceux qui nous suivent sur notre site. Vous pouvez réagir par rapport à ces sujets. Nous avons nous avons Théophile Montpalo, qui est expert en sciences de l'éducation, qui est là pour répondre à vos préoccupations. Et comment vous réagissez, comment vous répondez à Achille? Il y a des chefs d'établissement qui gèrent deux établissements. Tantôt il est dans celui-ci et puis il va dans l'autre. Il a parlé également d'un chef d'établissement qui a fait la géographie et qui gère un institut, la coupe et couture.
Merci. Qu'est-ce que je dois répondre à M. Achille Boba? À sa première question, il gère deux écoles. En fait, un gestionnaire, c'est d'abord, au départ, c'est un enseignant. Et puis il est pédagogue, ensuite il est administrateur, donc gestionnaire en tant que tel, gestionnaire, ainsi de suite. Et il est le financier aussi, parce que même s'il utilise le percepteur, le comptable, tout ça, il doit être en mesure de le contrôler. Et pour pouvoir le contrôler, il doit avoir la maîtrise de son travail. Un enseignant qui a, un préfet qui a deux écoles à gérer, d'abord... c'est contre-indiqué du point de vue normatif. Le ministère de l'EPSP, qui gère ce secteur d'enseignement, n'autorise pas ce type de cumul. Et à moins que le préfet soit responsable d'une école publique d'un côté et à côté de sa propre école, une école privée.
Oui.
En ce moment-là, Il n'est pas préfet pour l'école qu'il a créée. Il est appelé promoteur. En tant que promoteur, il lui est demandé de nommer quelqu'un d'autre pour gérer cette école qu'il a créée, qui est une école privée, lui devra s'attendre à son gain à la fin du mois, c'est 20%, à son argent, ainsi de suite. Mais celui qui est appelé à gérer quotidiennement cette école privée, ça ne peut pas être lui. En définitive, nous dirons que un gestionnaire préfet qui gère deux écoles publiques, ça c'est contre-indiqué. Donc le problème ne se pose pas. S'il le fait, il faudra vérifier si l'autre école là, c'est pas une école privée. Et le conseil que je lui donne, c'est de pouvoir nommer un autre préfet directeur pour cette école. En ce qui concerne la deuxième question, il est agronome, il gère peut-être une section agronomique, plutôt une section coupe-couture, alors qu'il est agronome, ainsi de suite. Il y a des critères de promotion ou de nomination de chefs d'établissement. Ces critères sont définis, sont déterminés à travers les instructions officielles qui gèrent le ministère de l'EPSP. Pour passer comme préfet, il faut passer un concours organisé par le ministère. Eh bien, avant de passer ce concours-là, on définit les critères. Il faut avoir tel profil pour pouvoir remplir les fonctions du directeur d'une école. On suppose, par exemple, que ce monsieur a fait l'agronomie et qu'en plus de l'agronomie, il aurait fait l'agrégation. S'il a fait l'agrégation, il est en mesure de pouvoir diriger cette école parce qu'il sait comment s'y prendre par rapport à la formation psychopédagogique suivie tout en étant agronome à l'université.
Donc c'est bien possible, mais cela dépend de la formation.
S'il le fait, alors là, s'il le fait en catimini autrement, il doit être sanctionné.
Voilà. On poursuit avec vous, professeur. Il a déjà deux auditeurs en ligne, Fidel qui est à Kananga et Blanchard Luana qui est à Kinshasa, qu'on va retrouver tout à l'heure.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment bien gérer une école? Nous en parlons avec Théophile Montpalo, l'expert en sciences de l'éducation. Et donc, notre invité, nous avons en ligne Fidel depuis Kananga, dans le Kasa occidental, et Blanchard Luana ici à Kinshasa. Fidel, bonjour.
Mombala, c'est Fidel depuis la Université de Ghana.
Allez-y, on vous écoute, Fidel.
Merci de la parole. Je profite de cette occasion pour saluer aussi à M. Théophile, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté.
Merci beaucoup. Réciproquement.
Nous avons l'exemple d'un chef d'établissement ici, qui le place. Le même chef d'établissement est conseiller au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le même préfet, là, est pasteur dans une école, plutôt dans une église. Le même préfet, là, il est professeur dans une école privée. Le même préfet là est préfet dans une école du village, privée de chez lui là-bas. Nous avons effectué les stages dans son école, on était à Nef. Nous avons fait 6 mois, et c'était aussi, nous n'avons jamais été visités. Dès que vous disiez qu'il faut qu'un chef d'établissement puisse passer visiter les enseignants pour savoir réellement si les enseignants donnent le cours. Alors, je pose la question à M. Théophile, est-ce qu'un tel chef d'établissement peut bien gérer son école? La deuxième question. Nous avons ici, au Homme, c'est l'exemple que je suis ici, un conflit de promotion. Les gens qui font la gestion des instituts scolaires de formation, à l'ISP, là que nous sommes, disent que non, ce sont eux qui doivent être affectés comme les chefs d'établissement, eu égard à leur formation pour qu'ils puissent bien gérer les écoles. Nous disons non, non. Nous tous, nous faisons la pédagogie appliquée, même si je termine en physique, par exemple, où je suis. Licencié en physique, on peut m'appeler comme étant préfet ou chef d'établissement, je vais bien gérer l'école. Tout comme toi aussi, tu termines en gestion, licencié en gestion, on s'attribue la tâche d'un chef d'établissement, tu dois bien gérer l'école. Et des fois, on arrive même à se changer de coup. Alors, je voulais poser la question à M. Théophile, est-ce que c'est nécessairement les gens qui font la gestion ici, à l'ISP qui doivent être affectés comme chef d'établissement? Merci et bonne journée à Marcel Mbala.
Merci Fidèle, bonne journée à vous aussi. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Blanchard Luana, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour Marcel.
On vous écoute.
Oui, ma question est la suivante. Qu'est-ce que fait que, donc, par exemple, des préfets qui sont des prêtres et les enseignants qui ont fait la pédagogie, qu'est-ce qui fait la différence? Le préfet des écoles qui sont des prêtres arrive à bien gérer l'air d'établissement et les archevêques leur ont confié la gestion. Alors, à quel le professeur dit un bon gestionnaire doit être pédagogue. Mais comment les messieurs l'abbé arrivent à bien gérer les écoles par rapport à ceux-là qui sont des pédagogues?
Merci Blanchard. Théophile Moupal.
Ok, merci. Nous commençons par la question de notre ami fidèle, Kadanga.
Avec un chef d'établissement qu'on retrouve partout.
On retrouve partout. On retrouve partout. Je crois que j'ai répondu à cette question-là à M. Achille Boba, si Fidèle était attentif. J'ai dit ceci, je voudrais lui rappeler pour aussi nos auditeurs qui viennent de prendre, qui viennent d'être branchés. Le préfet, chef d'établissement, il doit diriger une école publique. Lorsqu'il a une autre école, pourvu que, à condition que cette nouvelle école soit une école privée, mais avec un autre préfet que lui nomme. Lorsqu'il désigne quelqu'un d'autre comme responsable de cette école privée qui lui appartient, eh bien, en ce moment-là, lui ne se contentera que de recevoir ses émoluments à la fin du mois, c'est 20%. Mais en ce qui concerne la gestion courante de cette école, celle-ci incombe au préfet que lui nomme dans cette école privée. Lui reste en attendant, il reste dans l'école publique où il est nommé, où il a été nommé habituellement. Et notre préfet, tel que dénoncé par notre ami fidèle, doit faire un effort pour se mettre en règle. Et lorsque nous parlons, nous sommes sûrs que la hiérarchie de l'enseignement nous suit. Et quitte à ce que cette hiérarchie puisse prendre des mesures à son égard au cas où ce préfet ne respecte pas ses normes en matière de gestion. La question suivante, le conflit qui vous divise, vous qui êtes vous faites, vous tous, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les physiciens, vous faites l'ISP. Vous êtes de futurs pédagogues. Alors, la question que je me pose... Je donne cours à l'UPEN, tel que vous m'entendez là. Donc, en donnant cours à l'UPEN, ça va vous surprendre. Je donne le cours, j'anime la composante psychopédagogique. Et dans cette composante, il y a le cours de pédagogie, il y a le cours de didactique générale, le cours de didactique des disciplines et évaluation. Alors, le problème, la question que je me pose par rapport à votre question de tout à l'heure, parce qu'à l'UPEN, il y a aussi, nous avons aussi la gestion, nous avons l'orientation physique. Et ces orientations, ces filières-là, ont ce cours dont je vous parle, qui sont assurés par des collègues, et il y en a que moi j'assume, que j'assure également. Et je suppose, puisque le programme est national, je suppose que c'est le même cas pour l'ISP Kananga. C'est Kananga? C'est Kananga, je crois.
Kananga. L'ISP Kananga, oui.
D'accord. Et à un moment donné, lorsque les gestionnaires se retrouvaient en stage, ils s'opposaient à passer de faire un stage d'enseignement. Ils voulaient passer directement au stage professionnel fondé sur l'administration, sur la gestion de l'école. Nous leur avons dit ceci, que avant d'être préfet, avant d'être directeur, vous devez d'abord passer par l'enseignement. Vous devez, en tant que gestionnaire, vous êtes pédagogue, vous devez contrôler, vous devez être en mesure de contrôler vos enseignants. De ce fait-là, vous devez être des exemples, des modèles pour vos enseignants. Et ils ont compris de telle sorte qu'ils font leur stage d'enseignement comme enseignant, et puis ensuite, il passe un stage d'administration, de gestion dans les établissements. Si l'année est le cas pour l'ISP Gombe, ou plutôt l'ISP Kananga, la même chose. Pour les physiciens, le problème ne se pose pas. Ceux-là, ils s'exercent à donner leur cours de physique, moyennant avoir suivi le cours de didactique, etc. Donc, si l'année est de même pour votre établissement, lorsque vous vous retrouvez sur le marché d'emploi, c'est un combat d'intellectuel. Ce n'est pas un combat de poing,
un combat de main.
Le marché d'emploi est très exigu, mais avec beaucoup de demandeurs. Alors, il faut lutter sur le plan intellectuel. Il faut respecter les critères définis par le ministère. Lorsqu'un gestionnaire est accepté comme candidat à passer son examen pour être nommé préfet, et qu'il réussisse. La même chose en ce qui concerne le physicien. Non, il ne faut pas lui interdire d'assumer les fonctions de...
Non, compris, donc c'est bien clair.
Okay. La dernière question des Blanchard.
Il insiste, généralement, les écoles de pères jésuites, ou bien des abbés, quelles formations sont suivies? Oui.
J'aimerais vous dire ceci, que... Les meilleures écoles dans notre pays, je ne dis pas à l'heure actuelle, à un moment donné, et vous aussi en tant que parent, si aujourd'hui entre deux écoles, une école privée, une école publique, une école conventionnée, catholique, au cas où on vous demandait d'inscrire votre enfant, le choix sera, je suppose, assez clair. Vous allez orienter votre enfant, l'inscrire dans une école catholique. Pourquoi? Parce que nous, ces écoles-là, je ne dis pas des écoles, peut-être je ne connais pas exactement la réalité de ce jour, mais compte tenu de l'expérience vécue, accumulée par ces écoles depuis des années, vous devez savoir que lorsque les écoles ont commencé à fonctionner au niveau occidental, les gens qui se sont préoccupés de la formation des enseignants, de mettre en place de programmes dignes de ce sont des prêtres. Prenez le cas de Jean-Baptiste de La Salle, au XVIIIe siècle, après Jean-Jacques Rousseau. C'est Jean-Baptiste de La Salle, le créateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. C'est lui qui a eu le souci de mettre sur pied des établissements qui devraient former des enseignants. Et il a conçu un programme conséquent. Bien après, Ignace de Loyola, avec les pères jésuites, n'est-ce pas? Lui aussi, presque à la même période, 18e siècle, n'est-ce pas, a créé des écoles qui devraient former des meilleurs enseignants. Et ces meilleurs enseignants étaient puisés parmi les clercs, les prêtres, parmi les frères. Vous connaissez l'histoire des frères des écoles chrétiennes. Je ne fais pas leur publicité, mais c'est la réalité. Vraiment, je m'excuse beaucoup. Eh bien, souffrez parce que votre question concerne les prêtres. C'est normal que, compte tenu de cette expérience qu'ils ont accumulée depuis des années, on leur fait confiance. Vous allez dans un pays comme la Belgique aujourd'hui, si vous êtes prêtre, vous terminez, vous allez travailler, même si vous ne travaillez pas, les prêtres en Belgique ont un salaire. Lorsqu'il termine, il est payé comme un licencié. Travailler au patron. Pourquoi? Parce que la Belgique trouve que les prêtres ont beaucoup contribué dans leur développement. Les colonialistes, les prêtres, jadis, ont contribué dans le développement. Et aujourd'hui, chez nous, étant donné les conditions dans lesquelles notre pays évolue, les conditions dans lesquelles le gouvernement éprouve des difficultés pour payer les professeurs, la garantie que notre gouvernement accorde à ces missionnaires, lorsqu'un prêtre termine, bien qu'il n'ait pas la qualification pédagogique, lorsqu'il est nommé préfet, compte tenu de leur expérience d'antan, eh bien, on lui accorde le grade de chef des divisions. Donc, notre pays...
Donc, ce qui est vrai, Théophile Montpalo, les prêtres, déjà par leur formation, parce qu'on sait les voir dans les écoles qui sont tenues par le religieux, c'est-à-dire ce que vous avez dit avant, la planification. De la planification, ça n'y a rien à dire. Hein. Tout est planifié.
Compte tenu de leur expérience, c'est bien. Cette expérience demain.
Oui, et la rigueur, demain, et la rigueur aussi, voilà.
Absolument, la rigueur, ainsi de suite.
Voilà, je crois que...
Pour répondre à cette question, on peut continuer. Vous avez des questions?
Bon, c'était la dernière question avec notre ami Blanchard. Peut-être vous avez quelque chose à dire pour conclure.
Oui, mais nous sommes déjà à la fin, je ne sais pas.
Oui, bon, allez-y pour conclure.
Bon, pour conclure, oui. Je disais ceci que du point de vue de la gestion, il n'y a pas que la planification. Parce que tout à l'heure, avant les questions de nos auditeurs, je me suis apesanti sur le plan, sur la planification. Il y a aussi, je dirais, ce qu'on appelle la planification financière. Financière, le gestionnaire, c'est un financier.
Donc tout repose sur la planification.
Absolument.
Il faut bien planifier.
La planification. Ouais, ouais. La planification. Il doit bien gérer les finances, savoir combien entre, combien sort. Il doit se mettre d'accord par rapport aux exigences de l'État. L'État définit, dit voilà, pour les examens d'État qui se passent, il faudra ne pas dépasser tel montant. Il réunit les parents qui sont les géniteurs de leurs élèves. Ils se mettent d'accord pour voir dans quelle mesure les parents peuvent payer si le montant dépasse plus ou moins leurs possibilités, même s'il faut payer petit à petit, mais ne pas chasser les élèves. Bon, il y a plusieurs aspects au niveau de la gestion, la gestion des conflits. Les conflits peuvent surgir entre les élèves et les enseignants. Un enseignant qui se met à harceler ses élèves, un enseignant qui ne compose pas convenablement. Mais c'est le préfet qui doit sanctionner. Il doit être à mesure de découvrir de quoi il s'agit. C'est fini.
Allez-y, vous êtes en train de conclure, il n'y a pas de problème. Allez-y.
Intervenir, ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs aspects liés. Il y a la gestion du partenariat. Parce que j'ai dit qu'une école, c'est une entreprise. C'est comme les autres entreprises. Et pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait trois ressources principales. Il y a les ressources humaines, nous avons parlé des élèves, les enseignants, ainsi de suite, ce qu'on appelle le capital humain. Il y a le capital financier. Lorsque le préfet, tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous a posé la question, qui a dit qu'il y a un préfet qui a des écoles à gauche, à droite, qui gère, ainsi de suite. Et peut-être qu'il a suffisamment de moyens pour ouvrir une école à gauche, mais il doit avoir aussi suffisamment de moyens pour pouvoir payer son personnel, pour que lui ne peut pas être à la fois au four et au moulin, gérer l'école publique et gérer l'école privé. Bon, ça c'est le capital financier, le capital technique, l'équipement, les infrastructures. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Or, il faut promouvoir la bibliothèque pour donner le goût de lecture aux enfants. Maintenant, on parle des ordinateurs, il faudra équiper votre école avec les PC.
On comprend que vous avez vraiment beaucoup à dire par rapport à ce sujet.
Je vous en prie.
Dans l'éducation, c'est très important pour les enfants. Donc, vous étiez notre invité pour parler de comment bien gérer une école. C'est très, très important de planifier sur tous les plans et de savoir comment gérer les conflits et doter l'école de tout ce qu'il faut pour un bon encadrement des enfants. Nous vous disons merci, Tofi Mopalo. Nous rappelons que vous êtes expert en santé de l'éducation. Vous étiez notre invité pour nous parler de comment bien gérer une école. Merci. Au revoir.